טוב, רבותיי, פרשת וישלח. הלא יעקב ורקונטרי עשיו. אבות רקונטרי עשיו, אביאן למלאך, כי אינפט לאנג' דה עשיו, סנפרן לוי. אינו אנטייר, אינקומבה. אינקומבה אינטרי יעקב ועשיו. אבידמן, סג'י פא אוניקמן דינות פיזיק, קורפורל, מאוסי דינות מורל, et spirituel. Parce qu'en effet, c'est un ange, un malach. Un ange, malach, l'ange de Esav. Donc en fait, c'est les forces du mal contre les forces du bien. Et en fait, c'est un sujet très complexe. Mais cependant, on va essayer de tirer quelques idées de ce combat entre Yaakov et Esav. Alors tout d'abord, eh bien, vers la fin du combat, lorsque ce malach, cet ange de Esav, voit qu'il n'arrive pas à vaincre Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Shalecheni kiala ashachar »« Yaakov, lâche-moi, laisse-moi partir. » Pourquoi? Parce que l'aube est arrivée. L'aube est arrivée. Rashi ramène le Midrash qui nous dit c'est quoi l'aube est arrivée. Il dit cet ange à Yaakov, depuis que j'ai été créé, le Egiaz Mani Lomar Shira Adayom. Salichani Lomar Shira. Je dois chanter devant Hachem. Aujourd'hui, ce matin, je dois chanter devant Hachem. Alors là, c'est très étonnant. Il doit chanter devant Hachem et il dit à Yaakov, eh bien, c'est la première fois donc de sa vie qu'il doit chanter devant Hachem au ciel, devant tous les malachim, tous les anges. Et la veille, pas la veille, il vient sur terre se battre contre Yaakov. S'il a une date prévue auparavant, que ce jour-là, il doit chanter devant Hachem ce malach. Pourquoi est-ce que la veille, eh bien, il vient se battre contre Yaakov? C'est pas la bonne date, tu as une autre date. Alors le Balatania nous dit quelque chose d'intéressant. Nous dit en fait, c'est le contraire. C'est on a l'impression que le Satan, le Tzara, eh bien, vient nous inciter à fauter. C'est vrai. Il vient nous inciter à fauter. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce malach, cet ange, même l'ange de la mort, l'ange des forces du mal, il est envoyé par Hachem. Il est envoyé par Hachem. Ce n'est pas une force à part. Il ne va pas se battre contre Hachem. C'est Hachem qui l'a envoyé. Entre parenthèses, le Midrash dit que lorsque l'ange de la mort a été créé, il s'est plaint devant Hachem. Il a dit à Hachem, eh bien, que les gens vont le maudire toujours. Ils vont, n'est-ce pas, le maudire, le mépriser. Hachem lui a dit, t'inquiète pas. Je te garantis qu'ils vont t'oublier. Quand quelqu'un est décédé, c'est la maladie, c'est l'accident, c'est l'âge, on oublie l'ange de la mort. On va oublier Malacham Avet. Mais en fait, eh bien, ces forces du mal, ce Satan, ce Yetzara, il est envoyé par Hachem. Il vient faire son devoir. Lorsqu'il vient nous faire trébucher, faire déraper pour une faute, en fait, il vient nous inciter à fauter. Mais réellement, sa finalité, et même dit plus le Baal Tanya, son épanouissement et son harmonie à lui, ce Satan-là, c'est qu'il soit vaincu. Il y a un bel exemple là-dessus. Un entraîneur de boxe, il va entraîner, eh bien, son élève. Il va commencer à lui taper dessus. Et lorsque, eh bien, l'élève va tomber, il va le gronder. Quant à l'entraîneur, ce qu'il espère, ce qu'il aspire, eh bien, c'est que l'élève soit un champion de boxe. Et qu'au contraire, lui, n'est-ce pas, puisse se protéger comme il faut, et même lui, taper l'entraîneur comme il faut. Quelqu'un qui va t'entraîner à être un athlète, il ne veut pas te battre, il te met un obstacle dans la course, dans la compétition, pas pour te mettre à plat. Parce qu'au contraire, il veut t'éduquer à ce que tu puisses eh bien, surmonter l'obstacle en question. Tu prends l'haltérophilie. Eh bien, tu prends 50 kilos. Quand tu es habitué, tu prends 51. Tu es habitué, 52. Donc en fait, le but, ce n'est pas lever un poids léger qui soit facile pour toi. Au contraire, le but, eh bien, c'est de mettre la barre toujours plus haut, plus élevée, pour améliorer ton rendement, être un vrai champion. Eh bien, c'est exactement ce que fait avec nous le Satan, le Yetzara. Il vient nous inciter à fauter. Lorsque tu l'as battu, tu t'es maîtrisé, il revient demain avec une force plus grande. Quand il a dit la gloire, Adam, mitradesh be kolyom, mitgaber be kolyom. Il y a un nouveau Yetzara et il y a une plus grande force du Yetzara. Pourquoi une plus grande force? Parce que la force d'hier, si tu l'as vaincue, donc tu as levé 50 kilos. Demain, on va te mettre 51 kilos. Demain, le Yetzara sera plus grand. Pourquoi? Pas pour te faire tomber. Pour t'éduquer à être un athlète. À être un plus grand champion. Et précisément, dit le Baal HaTanya, lorsque tu l'as vaincu, ce Satan, lui, il est en harmonie. Il est en harmonie si bien que c'est comme si tu l'as créé, tu as créé un malach nouveau. Un ange nouveau. C'est ce que dit ce malach, cet ange de Esav à Yaakov. Et il faut bien comprendre que cet ange-là, c'est pas n'importe qui. Parce que c'est l'ange, le malach, qui va représenter eh bien, l'empire de Esav qu'il y avait dans le monde, dans sa totalité. Donc c'est un réel champion qui vient se battre contre Yaakov. Lorsque Yaakov l'a vaincu, Igyazmani lo marchira. Parce que tu m'as vaincu, eh bien, aujourd'hui, j'ai le privilège de chanter devant Hachem. Parce que j'ai été vaincu par Yaakov. Donc, au contraire, ce n'est pas qu'il avait cette date prévue à l'avance. C'est parce que Yaakov l'a battu, l'a vaincu. C'est grâce à cela, eh bien, qu'il est devenu maintenant un malach anoche qui a le privilège de chanter devant Hachem parce qu'il a été battu par Yaakov. Au même ordre d'idée, explique le Baal HaTanya. On l'a dit plusieurs fois déjà. Ce que bien souvent, vous savez, quand on fait la mitzvah, et dit le Zohar HaKadosh, surtout, l'étude de la Torah et la Tfila, c'est là où le Satan vient nous empêcher, vient nous amener des mauvaises pensées. C'est surtout ça arrive dans le Shema et dans la Amida, ou dans l'étude de la Torah. Pourquoi? C'est vrai. Tout le monde est d'accord. Ça arrive surtout, Shema et l'Amida, c'est là où on a les mauvaises pensées. N'importe quoi, n'est-ce pas? Ou pensées mauvaises, ou alors l'esprit dispersé. Pourquoi? Et là aussi, dit le Baal HaTanya, il ne faut pas être dérangé, déprimé. Au contraire. Il dit, entre guillemets, c'est un bon signe. C'est un bon signe que tu es maintenant en élévation spirituelle. Tu es en ascension, en progression. C'est comme une genre d'allégorie ici en Israël, la vie c'est comme du cyclisme. Quand c'est facile, tu es en descente. Quand c'est difficile, tu es en montée. Donc, c'est ce que dit le Baal HaTanya, c'est que parce que tu es en élévation spirituelle, alors c'est très souvent, on fait tshuva. On fait tshuva. Mais la tshuva, notre tshuva, elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'on a fait la tshuva sur le maaseh, sur l'action. Et on a oublié qu'il fallait aussi faire tshuva sur les pensées. Ou alors, on a fait tshuva, mais bon, on ne pense pas que c'est trop grave. Et donc, il manque une tshuva par rapport au domaine de la pensée. Il y a trois domaines dans la Torah, marshava, dibour ou maaseh. La pensée, la parole et l'action. Alors, dans la vie quotidienne, on donne beaucoup d'importance à l'action, ainsi qu'à la parole. La pensée, on pense que c'est pas concret, c'est pas réel, on la voit pas. Dans la Torah, c'est très important la pensée, très important. C'est le siège de la Shrina. Hachem, il va siéger dans ton cœur, dans ton esprit. Les pensées, c'est hyper important. Il est Shrina, ton cœur, il est Kodesh Kodashim. L'homme est comparé à un Beth Amikdash. Chaque partie de son corps correspond un endroit, un lieu de Beth Mikdash. Le cœur, c'est par rapport au Kodesh Kodashim. Et l'esprit, le cerveau, c'est par rapport au Kodesh. Et donc, il y a aussi une choix à faire au niveau de la pensée. Lorsque notre tshuva est partielle, on l'a fait pas 100%, il manque plus que la tshuva par rapport à la pensée. C'est pourquoi, quand tu es, parce que tu es en progression, en ascension pendant la tfila, le Shema et l'Amida, et là, eh bien, en fait, la notion de tshuva, la mitzvah de tshuva, elle vient te courir derrière pour que tu puisses, eh bien, perfectionner ta tshuva. Et donc, ces pensées mauvaises qui leur manquent le tikkun, elles viennent, pendant la tfila, comme te supplier de leur faire un tikkun qui te manque. Tu as fait tshuva sur l'action, pas sur la pensée. Et le meilleur moment, c'est quand tu es en progression pendant l'étude de la Torah, pendant la tfila. Et c'est comme ces pensées, elles te supplient un tikkun, je veux être réparé aussi. Comment on fait le tikkun? Dis le matin, c'est très simple. On va pas chercher midi à 14h. Lorsque tu vas faire un effort de maîtrise de la pensée, de ne pas penser à ces pensées, mais au contraire de braquer ta concentration sur ton texte de Torah, sur ton texte de tfila, c'est là où tu vas donner un nouveau siège à la pensée, qui va être, non pas pensée mauvaise, mais Torah et tfila, et là tu vas réaliser le tikkun extraordinaire qui manquait à ta tshuva. C'est pourquoi dit Batané, au contraire, c'est un bon signe que tu es en progression spirituelle. Tania, chapitre 28. Il vient de le voir. Il dit au contraire, c'est un bon signe que tu es en train d'avancer et Hachem veut t'aider, te faciliter la tâche. Et c'est l'idée qu'il dit aussi, c'est que lorsque le Satan vient t'inciter à faire une avéra, son harmonie, c'est que tu le maîtrises. Et des fois, c'est bien, ça aide beaucoup d'y penser. Quand on est incité, quand on est tenté par une faute, par un instinct, par un désir, par une envie, et bien de penser qu'en fait, cet instinct, ce désir qui te pousse, etc., eh bien, sa finalité, son harmonie, c'est que tu le vainques, que tu le maîtrises. Et c'est là, au contraire, que tu vas créer un malheur, un ange, on ne sait pas ce que c'est un malheur. Mais bon, sache que tu vas pouvoir déclencher un chant extraordinaire devant Hachem. Là aussi, sans chercher midi à 14h, quand on arrive à se maîtriser, eh bien, nous-mêmes, on peut chanter devant Hachem. Nous, on peut chanter devant Hachem. On va rajouter là-dessus, ce qu'on avait parlé ça il y a quelques mois, c'est que dit le Midrash, Shlomo Ameler, Shlomo qui était roi, alors au départ il était roi sur toutes les provinces qui étaient connues à l'époque. Ensuite il a été répudié de son palais royal. Et donc, dit le Midrash, il n'avait rien qu'un bâton avec lequel il errait dans les forêts pendant quelques mois. Et dit le Midrash, Shlomo Ameler, Malach al-Maklo. Il n'avait plus rien, il était roi sur son bâton. D'après le pshat, c'est-à-dire qu'il n'avait rien que à part Makel Nedudim, un bâton avec lequel il avançait. Mais les commentateurs disent autre chose. C'est quoi Malach al-Maklo? C'est quoi être roi sur son bâton? Ça veut dire que Shlomo HaMelech ne dépendait pas du palais royal. Un homme normal, alors lorsqu'il a évidemment des serviteurs autour de lui, qui sont en train, n'est-ce pas, eh bien, de l'honorer, de le respecter, d'être à son service, alors il est content, il est heureux, c'est là où il est le roi. Mais lorsqu'il est errant dans une forêt, il n'a plus rien du tout, eh bien, il va être déboussolé. Il perd les pédales. Il perd le contrôle de soi-même. Il n'est plus maître de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et donc, dit le Midrash, il n'est plus meler, il n'est plus roi. La grandeur de Shlomo HaMelech, c'est qu'il était roi dans son essence. C'était comme une vertu intrinsèque qu'il avait. Même lorsqu'il a été répudié de son palais royal, il n'avait qu'un bâton, Malach al-Maklo. Il est resté roi. C'est-à-dire qu'il était encore maître de ses pensées, de ses visions, de ses paroles. Tout ce qu'il faisait était pesé, était mesuré, était avec une maîtrise totale de A à Z. Et c'est pourquoi, en fait, il méritait réellement la royauté, parce qu'il était maître, il était roi dans toutes les situations. Même quand il a tout perdu, son trône, sa place, sa carrière, il reste roi. Il reste maître de lui-même. Et ça aussi, il faut y penser, c'est que lorsque des fois, on est tenté par une faute, par un désir, vous savez, des fois, ça peut être une avéra, des fois, c'est même pas une avéra. C'est pas interdit. Mais on sait que c'est pas, on a mauvaise conscience, c'est pas très joli de faire ça, c'est pas très bien par rapport à la morale, par rapport à la conscience. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans la vie de quelqu'un. C'est pas interdit par la Torah, mais c'est pas une conduite qui est adéquate. Comme on connaît bien les formes de politesse. Alors des fois, c'est plus que la politesse. C'est pas une conduite qui est droite, qui est noble, d'un homme, eh bien, qui a une certaine dignité. Et là, en effet, c'est ce qu'on peut se rappeler. Eh bien, que lorsque le Yetzer, ce malheur, cet ange-là, vient t'inciter à déraper, à faire n'importe quoi, n'importe comment, rappelle-toi, eh bien, que lorsqu'en effet, tu es en train de perdre les pédales, tu es comme, eh bien, cet homme-là qui va errer dans la forêt, tu n'as plus ta carrière, ta place, tes honneurs, eh bien, Shtoma Malher, Malach al-Maklo. Lorsque tu vas rester costaud, quand tu vas rester, n'est-ce pas, stable, tu vas te maîtriser. Être roi, comme Shlomo qui avait qu'un bâton avec lequel il irait dans les forêts, eh bien c'est là où tu vas mériter réellement la royauté. C'est là où cette royauté va devenir une vertu en toi. C'est là où tu vas être imprégné, cette royauté, parce que la maîtrise, ce n'est pas quelque chose qui va dépendre de la société. C'est pas difficile de se contrôler lorsqu'on est devant, n'est-ce pas, des personnes importantes, lorsqu'on est entouré, eh bien, de toute une cour, une société qu'on doit respecter, qu'on doit paraître bien, n'est-ce pas, en faire bonne impression, c'est pas trop difficile. On se contrôle. Le plus difficile, quand tu es seul, quand tu es chez toi à la maison, comme dit le mot, Bechadre Chadarim, quand tu es seul avec toi, avec ta famille, là, en effet, eh bien, c'est là où on peut vérifier qui es-tu réellement. Comme dit l'Aprime Vital, au nom du Arizal, eh bien, les midot, les vraies qualités et vertus, ainsi que le défaut d'une personne, comment est-ce qu'on les vérifie? Eh bien, c'est exactement dans son rapport avec son épouse. Là, tu es seul à la maison, avec ton épouse, avec tes enfants. Là, tu es réellement, tu vas te conduire de façon normale, de façon naturelle. Il n'y a plus ici, n'est-ce pas, eh bien, la présidence, la royauté, la société, la cour qui t'entoure, n'est-ce pas, il faut bien paraître aux yeux des gens. Il n'y a plus ça. Là, qui es-tu? L'homme, qui es-tu? Et c'est le Midrash qui vient de mettre en garde. Eh bien, Shlomo HaMelech méritait la royauté parce que même quand il errait tout seul dans une forêt, lorsque personne ne le connaissait, lorsqu'on ne croyait pas quand il racontait qu'il était le roi, on ne croyait pas. Un homme errant, n'est-ce pas, qui habitait habillé comme un mendiant. Et malgré tout, il était maître de lui-même. C'est comme dit le Roche. Dans le Chotraïm, dit le Roche, quand tu manges chez toi seul à la maison, eh bien, mange de façon digne et noble, comme si tu mangeais devant, n'est-ce pas, eh bien, toute une société, devant des personnes importantes, comme si tu étais filmé. Voilà. Même quand tu manges seul. Parce que la noblesse, la dignité, la conduite, ça doit être, eh bien, quelque chose, une conduite qui t'appartient. Pas qui dépend du regard des autres et de la caméra. Qu'est-ce que tu es réellement? Comme dit, eh bien, cette conduite exemplaire peut créer un malach, peut créer, eh bien, cet ange, entre guillemets, qui va se mettre à chanter devant Hachem. Et encore, n'est-ce pas, un autre mot là-dessus pour compléter cette idée. Alors, avant de lâcher ce malheur, Yaakov lui dit, attention, attention, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me dises comment tu t'appelles. Amer elav, ma shemecha, Amer Yaakov, Amer Yaakov, Amer Od, pardon, l'autre verset, Vaishal Yaakov, Amer Agidana, shemecha. Il a demandé à cet ange, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Quelle est la réponse? Va Omer, Lamazé Tishal Lishmi. Pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Ça veut dire quoi? On dit, le Rav il est à la plaine. Dans l'Eliyahu, il dit un grand Yisrod. Un élément de base ici. Yaakov a demandé à ce Malhar qui était l'ange de Esav. Mashmecha, c'est quoi? Le nom, c'est l'essence de l'homme. Et il dit, moi, quel est ton secret? Comment est-ce que tu fais pour séduire les gens? Pour les faire déraper? Pour inciter les gens à la faute? Il dit, c'est quoi ton secret? Yaakov, qui se maîtrisait bien, qui pratiquement jamais ne dérapait. Alors, vous voulez comprendre, c'était quoi la force du Satan pour faire fauter les gens? Et le Satan lui répond. L'ange de Esav lui répond. Il lui a dit, tu sais, c'est quoi mon secret? Mon secret, je dis aux gens, Lamazé Tish'al Bishmi. Je dis aux gens, ne pose pas de questions. Ne t'intéresse pas à ta réelle identité. Lamazé Tish'al Bishmi. J'incite les gens à ne pas s'intéresser, Bishmi, à leur réelle identité à eux-mêmes. Qu'un homme se dise constamment, je m'en fiche de ce que je suis. Je fais ce que je veux, j'ai envie de ça, je le fais. Quelle est ma réelle identité? Ça ne m'intéresse pas. Lamazetish al-Lishmi. Encore une fois, le nom, c'est l'essence. C'est la profondeur intérieure de l'âme. Lorsqu'une personne va s'intéresser à ce qu'il est réellement, alors on peut amener ici les notions, n'est-ce pas, de Neshama Dam, Nefesh, Ruach Neshama, qu'un corps est habité d'une âme. Et si on se rend compte de nos jours de plus en plus avec le progrès de la science, eh bien que le corps humain, c'est une complexité infinie. On a des milliards de cellules, des laboratoires. Dans chaque organe, c'est un laboratoire. On connaît des milliers de fonctions à chaque organe. En effet, c'est un laboratoire infini. Alors si une telle complexité pour un corps, pour l'âme, l'aneshama, c'est pas moins, même plus. Et donc, il conviendrait de s'intéresser à sa neshama, même sans aller loin, à sa façon de conduire, de réagir. Comment est-ce qu'une personne agit? Comment est-ce qu'une personne réagit? C'est-à-dire que la conduite spontanée, instinctive d'une personne est dangereuse. Si une personne se laisse aller, se laisse cavaler, se laisse réagir spontanément, par l'instinct, par le désir, par la colère, il peut faire des graves erreurs. Sans se poser la question, c'est ce qui nous arrive. Alors, pour éviter cela, il faut se poser des questions. Qui je suis? Homme, qui es-tu? Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Là, t'as l'air, où tu vas? Quel est ton devoir? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu respires? Quelle est la finalité de l'homme, de la vie? C'est ça? L'ishol, l'ishmi, l'amazet, l'ishol, l'ishmi. Et donc, dit le Satan à Yaakov, j'empêche les hommes de se poser des questions. Il faut agir rapidement. Il faut réagir. Il faut parler. Il faut travailler. Il faut courir. Voilà. La course, le stress, sans poser de questions. Alors, j'amène souvent l'exemple d'un homme qui arrive à la gare. Il voit son train en train de démarrer. Alors, il prend son cartable sur son bras, il se met à cavaler et il arrive à rentrer miraculeusement dans la dernière porte du dernier wagon. Bon, de nos jours, ce n'est pas possible, les portes sont déjà scellées à l'avance, mais il y a 50 ans, on pouvait encore le faire. Donc, il s'installe essoufflé, et après 2 minutes, il se rend compte qu'il s'est trompé. Il a pris le train en direction opposée. Et il est coincé pendant quelques heures. Alors, des fois, ça peut nous arriver aussi. C'est dans la vie, on court constamment. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on a pris la direction opposée. On doit s'arrêter de temps en temps et faire un temps mort. Poser des questions. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? C'est ce que le Satan empêche. L'amazetish al-shmi. Pose-toi des questions sur n'importe quoi, sur la vie et surtout pas sur l'homme. L'ishmi, l'homme, c'est le nom de l'homme, son essence, son identité réelle. Et la Torah nous dit, attention, il faut s'arrêter. Alors, quand on s'arrête? Quand on s'arrête à Rabotai? On s'arrête d'abord une fois par an. Rosh Hashanah et Kippour. Tu fais un bilan sur l'année entière. Tu fais un bilan sur l'année. Est-ce que ton année passée était bonne? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Pourquoi est-ce que ça a marché? parce que ça n'a pas marché, etc. Quelqu'un qui est passé un examen, ça n'a pas marché, il vérifie pourquoi. Quand il a fait une affaire, ça n'a pas réussi, ok, il réunit pas le conseil du personnel, il réunit ceux qui ne travaillent pas dans son usine, dans sa société, pour voir qu'est-ce qui ne va pas et quoi améliorer. On le fait aussi chaque année à Rosh Hashanah et Kippour. Ça, c'est un bilan annuel pour faire tchouva sur l'année passée et faire un programme eh bien, d'amélioration pour l'année à venir. On apparaît aussi chaque Rosh Chodesh Rabotai. C'est-à-dire que la veille de Rosh Chodesh, il y a un tchouva. Fais tchouva sur le mois qui est passé. Et Rosh Chodesh part aussi, fait un nouveau programme. Chadesh Alenu. On vient renouveler l'homme. Un nouveau mois, un nouveau programme. On va prendre une nouvelle orientation. En effet, c'est écrit que Rosh Chodesh, il y a un surplus, n'est-ce pas, Nefesh et Tera, qui donne un surplus de volonté, de motivation à l'homme, de recommencer à zéro, de prendre une nouvelle orientation. En fait, c'est comme Rosh Hashanah, mais en minorité. Pas sur l'année, mais sur le mois. On a plus ou moins pareil Shabbat. Shabbat aussi. Alors, certains font aussi un bilan de la semaine vendredi. Et Shabbat, on a de plus, eh bien, c'est qu'on est déconnecté de tout ce qui est médias, matériel, téléphone, etc., pour se recueillir avec soi-même, avec sa famille, avec son lechadodi, avec sa tfila. Là, on peut réellement retrouver sa réelle identité. Alors, en effet, on a dit plusieurs fois que des fois, les gens qui sont loin de la Torah et qui se rapprochent, ils se disent quoi, Shabbat, tout est interdit, on ne peut pas bouger. Mais en fait, c'est le contraire. Parce que tout ce qui est interdit le Shabbat, c'est pour te permettre à retrouver ton harmonie, à retrouver ton identité. Parce que quand un homme a l'esprit dispersé par n'importe quel petit gadget, surtout n'est-ce pas un téléphone ou des médias ou une radio, etc., une vidéo, eh bien, son esprit va être dispersé. J'ai dit plusieurs fois, le Gaon de Vilna, eh bien, il étudiait dans une salle qui était vide. Il y avait une table, une chaise, une bougie et un livre. C'est tout. Pourquoi ? Parce que chaque objet, chaque détail qui est dans la pièce, ça va le déconcentrer. Ça disperse son esprit. Alors, sans arriver à cela, eh bien, on peut, lorsqu'on est déconnecté du monde matériel comme le Shabbat, on peut réussir à se concentrer sur sa Torah, sa tefila, son Shabbat, son Echadodi, sa famille, et surtout, encore plus important, se recueillir avec soi-même. Retrouver sa réelle identité. En son arabotai, comme ton mot, matin, midi et soir. Shachrit, mincha arvit. Là aussi, tu vérifies, est-ce que tu prends la bonne direction? Et tu peux chaque fois réaliser une itrachus, un renouvellement de ce que tu es. Et on a encore plus, arabotai, eh bien, 100 fois par jour, 100 brachot par jour. Là, on dit, Baluchata Hashem. On arrête tout, quelques secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, dire une bracha Hashem. Prendre conscience, eh bien, que le monde a été créé par Hashem. Et là, encore une fois, on va retrouver sa réelle identité. C'est ce qu'a dit, eh bien, Rabbi Lapian sur ce verset, c'est là le secret du Satan. Comment est-ce qu'il incite l'homme à la faute? L'amazé, tish alishmi. Pose pas de questions, surtout pas sur ton identité, mais constamment se mettre à agir, à parler, à courir sans réfléchir. Au contraire, lorsqu'on s'arrête, eh bien, on marque un temps mort dans la vie. C'est là où on peut, eh bien, réellement prendre la bonne direction. Vous n'avez pas la bonne direction. Des fois, même quand on est dans la bonne direction, eh bien, comme dit le Rambam Misal Tesharim, l'action qu'on fait, on peut l'améliorer. On peut vérifier, est-ce qu'elle est nickel ou pas? Est-ce qu'elle est parfaite ou encore imparfaite? On peut, n'est-ce pas, l'améliorer aussi. Et là aussi, ça dépend de quelle façon on va s'identifier avec ce qu'on fait. C'est des fois, on fait l'action, la mitzvah, de façon sèche, de façon indifférente. Lorsque tu vas, eh bien, t'identifier avec la mitzvah. Parce que, encore une fois, ce qui est dans cette phrase-là, la mazetish al-dishmi, c'est que quand tu ne poses pas de questions sur toi-même, eh bien, tu ne t'intéresses pas trop à ce que tu fais. Tu agis vite et c'est tout. Lorsque tu t'intéresses à toi-même, ton identité, donc tu prends conscience qu'en fait, tout ce que tu vas réaliser dans ta vie, tout ce que tu vas dire, ça a un lien très étroit avec ta vie, avec ton identité. on peut s'identifier avec la mitzvah qu'on fait, qu'on réalise. Et là, automatiquement, eh bien, la mitzvah qu'on va réaliser aura plus d'ampleur, plus d'importance. Ça, Rabotai, c'est les yesodot de la paracha de Vayishlah. Kotor Rabotai, Pastacha Rabba.